Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie de Jean-Baptiste Maudet, qui est invité pour nous présenter son premier roman publié aux éditions Le Passage, Matador Yankee. Matador Yankee, c'est le titre de cet ouvrage qui va nous amener de surprise en surprise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans la chaleur étouffante et les bas-fonds de Tijuana jusqu'au village reculé dans les montagnes de la Sierra Madre. Alors, j'avais prévu de parler un peu de l'intrigue de l'ouvrage, mais comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Jean-Baptiste, je te laisse la parole et puis après on passera aux questions.
Merci. Alors, merci à tous d'être là, ça me fait très plaisir. Il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et je suis très heureux de les voir. Alors effectivement, je vais présenter, je n'avais pas préparé grand-chose, mais au moins de présenter l'ouvrage. Alors parler d'un livre que personne n'a lu ou très peu, ce n'est pas évident parce que je vais devoir raconter l'histoire d'un livre qui raconte une histoire. Alors ça, c'est un peu problématique. Du coup, j'ai prévu de m'arrêter assez vite dans l'intrigue. C'est ce qu'on peut appeler un pitch et je vais essayer donc de faire un pitch. Alors, Matador Yankee, ça parle d'un personnage qui s'appelle John Harper, qui est un torero un peu raté. Alors déjà, il est blond, il est californien, ce qui n'aide pas, il est alcoolique, c'est peut-être le fils de Robert Redford, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est ce qu'il raconte quand il grandit dans la banlieue de Los Angeles au milieu de la communauté mexicaine. Évidemment, il a un très gros penchant pour le jeu et une dette considérable à rembourser. Du coup, il accepte d'aller torer, d'aller affronter des vaches au fin fond du Mexique, dans la Sierra Madre occidentale, en échange de l'annulation de sa dette. Donc un ami lui propose ce deal, il accepte, il s'en va. Et on se rend compte très vite, on apprend très vite dans le livre, qu'il n'a pas tout raconté sur sa dette de jeu et que cet ami qu'il envoie au fin fond des montagnes de la Sierra Madre n'a pas tout dit sur ses intentions. Alors, à partir de là, deux mensonges se croisent et la fête de village qui attend avec impatience ce gringo torero face au bétail local, la fête de village se passe mal, très mal, et s'ensuit un long retour vers le nord pour John Harper à la recherche d'une jeune fille et à la recherche d'une possibilité de régler le problème de sa dette. Donc ça, c'est le roman démarre sur cette intrigue qui va embarquer différents personnages qui vont accompagner Harper. Ces personnages-là ont des vies un peu abîmées. Ces personnages-là vont boire du mezcal, beaucoup de mezcal. Ils vont manger des pizzas sucrées salées. Ils vont s'aimer. Ils vont réfléchir sur l'Amérique. Et finalement, ils vont débarquer à Tijuana pour régler cette histoire. Donc voilà comment ça commence. Voilà un petit peu l'intrigue. Et voilà cette toile de fond qui se déroule donc entre la Californie, le Mexique, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, cette région assez complexe, assez passionnante, qui, dans notre imaginaire collectif, est souvent divisée en deux parties très opposées, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté le Mexique. Un mur qui les sépare et finalement, à la fois dans les pratiques quotidiennes, dans les représentations, historiquement, c'est une région qui vit ensemble. C'est une région transfrontalière, c'est la Mexamérique. Donc c'est une région qui a beaucoup de choses à raconter sur les contrastes entre richesse et pauvreté, qui a beaucoup de choses à raconter sur des identités complexes, sur parfois même un désarroi identitaire, hein, pour reprendre une expression d'un ami qui est ici dans la salle, et qui, du coup, au-delà de l'intrigue sur les personnages, au-delà de ce que raconte l'histoire, ça raconte aussi une histoire de l'Amérique. Voilà.
Très bien. Matador Yankee, c'est votre premier roman, mais ce n'est pas votre premier livre. puisque le sous-texte en fait de ce roman, c'est un sujet que vous avez étudié longuement. Vous avez co-réalisé un documentaire avec Frédéric Sommade qui s'appelait Le Cowboy, le Clown et le Torero, et vous avez déjà évoqué certains aspects de cette thématique dans Terre de Taureau, les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique. Ma première question, c'est de savoir comment s'est passée cette mue d'universitaire vers la littérature. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à traiter de ce sujet et d'autres choses à travers la littérature ?
Alors, ça s'est très mal passé parce qu'évidemment, je crois que j'ai envie d'écrire depuis très longtemps, d'écrire de la littérature depuis très longtemps. Et puis, l'écriture m'intéresse sous toutes ses formes. L'écriture scientifique est une forme que j'aime beaucoup, mais c'est un genre. Je crois que le roman en est un autre. Et c'est vrai que dans ce parcours, disons que mon enfance y a été pour quelque chose. Donc tout le monde ici le sait, ce n'est pas un grand mystère. Ma maman a travaillé pendant 20 ans dans cette librairie. Et donc je l'ai aidé à enregistrer les conférenciers, les auteurs. Je l'ai aidé à enregistrer sur les cassettes. C'était un travail très, 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 très méticuleux. Ma mère n'a pas du tout le portrait d'une geek des temps anciens. Donc j'étais obligé de l'aider dans l'enregistrement. Et puis très souvent, donc, elle rentrait le soir un peu tard et puis elle disait que les auteurs étaient finalement assez égocentriques et insatisfaits. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? Ça démarre bien. Donc ça m'a donné quand même assez tôt l'envie d'écrire en me disant, sur ce malentendu, peut-être qu'on peut y aller. Plus sérieusement, c'est vrai que j'ai écrit les choses pour moi depuis longtemps. Bon, je pense que les écrivains sont un petit peu obligés de démarrer par ça. Hein. En tout cas, quand on veut écrire un premier roman, il y a souvent des choses qui précèdent. J'avais écrit pendant que j'écrivais ma thèse, je m'étais lancé dans une forme très courte. C'était plutôt des poèmes. Le titre était un peu provocateur et très détendant. Ça s'appelait Arthur Iron, sa mère la pute et le grand Mr Freeze. Alors, c'est vrai que ce n'était pas très vendeur. Donc, Arthur, c'était pour mon amour pour Arthur Rimbaud. Arthur Iron, c'était une idole toute relative. Iron Man, qui est un héros un petit peu ambigu, un petit peu ambivalent, que j'aimais bien. Sa mère la pute, je suis désolé, c'était à l'époque, en tout cas, une expression qui formait presque un mot unique, hein, sans point, sans tirer, sans rien. Et puis, le grand Mr Freeze, certains auront reconnu le méchant, un personnage glaçant. Qui devait constituer un poème épique autour de ces trois personnages. Alors évidemment, c'était complètement fantaisiste, c'était pour me détendre de l'écriture de la thèse, qui est un travail de longue haleine, un travail au long cours, c'est 5 ans. 5 ans, dont 3 années d'écriture, sur un sujet qui était un sujet spécifiquement tauromachique, sur les relations entre l'Europe et l'Amérique à travers les relations hommes-chevaux-bovins. C'est à partir de là que je me suis intéressé au rodéo, donc avec, comme vous l'avez évoqué, ce travail en collaboration avec Frédéric Sommade, qui est un grand ami anthropologue à Marseille, professeur d'anthropologie, avec qui on est allé pendant 4 ans en Californie, grâce à un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, à un rythme de 2 mois, 2 mois et demi par an, donc c'était des séjours assez prolongés, pendant lesquels on a fait beaucoup de terrain, dans des espaces qui nous ont beaucoup surpris parce qu'on y allait avec des a priori sur ce qu'était la Californie. On connaît quelques clichés, c'est une région qui est saturée d'images, saturée de représentations. Et quand on se retrouve dans les contreforts, le piémont de la Sierra Nevada, chez des éleveurs de bétail, certains sont indiens, certains sont plutôt, on va dire, anglo, un territoire dans lequel se mélange bien sûr le rodéo classique, mais aussi le rodéo afro-américain dans les banlieues de Los Angeles, dans les banlieues de San Francisco, les rodéos mexicains portés par cette importante communauté mexicaine qui travaille plutôt dans la plaine agricole, donc la charreada, le jalipeo, plus ou moins clandestin, le rodéo gay dans les banlieues de Los Angeles et de San Francisco. Donc un mélange, sans oublier bien sûr la corrida portugaise, hein, qui à partir des années... du milieu des années 50 est réintroduite en Californie, principalement grâce à la présence des Portugais qui maîtrisent l'élevage laitier dans la région et qui ont réussi à autoriser la corrida sans trace de sang pour être en conformité avec la législation californienne sur la protection des animaux. Mais on se trouve dans un espace où, évidemment, on va de surprise en surprise sur les mélanges, les communications qui se jouent entre communautés, les liens entre toutes ces personnes qui sont attachées au cheval et au taureau. Ça, on ne peut pas l'imaginer quand on n'y va pas, quand on ne fait pas de terrain. Et ça, ça a été la grande surprise de ces 4 années qui ont donné donc lieu à un premier ouvrage qui s'appelle « Cowboy, clown et torero » et qui ont donné lieu aussi à un documentaire que vous pouvez voir assez facilement qui s'appelle « Le cowboy, le clown et le torero ». Plutôt pour faire écho au « Bon, la brute et le truand », on en reparlera, mais qui parle de ces interrelations complexes entre les États-Unis et le Mexique, autour de la corrida et autour du rodéo, qui sont de lointains cousins. Alors que dans l'imaginaire collectif, c'est deux jeux qui sont totalement séparés. Ces deux figures mondialement connues, le cow-boy américain et le torero espagnol, ce sont les deux seuls spectacles dans lesquels il existe des affrontements réels entre les hommes et les animaux. Et ce sont deux spectacles, c'est les seuls au monde, et ce sont deux spectacles où il y a à la fois des taureaux, des chevaux et des hommes. Donc cette énigme, elle nous a sacrément intéressés. Et de savoir qu'un des sports les plus emblématiques des États-Unis porte un nom espagnol, le rodéo, l'énigme aurait pu commencer par ça. Donc c'est vrai que c'est un terrain, moi, qui m'a complètement embarqué, qui m'a passionné, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Ça fait une 15aine d'années que je travaille sur ce sujet. Et donc là, j'en viens à la réponse à la question qui m'était posée initialement, que j'ai totalement oubliée, mais qui était pourquoi avoir écrit un roman. Pour faire court, cette envie d'écrire de la littérature, de faire de la littérature, je ne sais pas comment dire, cette envie d'écrire, et sur un sujet que je connais bien, pour lequel je me disais que j'avais envie de restituer les personnages, de rendre compte des personnages que j'ai rencontrés, des histoires incroyables qui se nouent à la frontière entre... Bon, j'ai rencontré un cow-boy qui a été effectivement torero au Mexique, puis il a fait du rodéo, puis ensuite il a fini en tant que cascadeur à Hollywood dans les immolations par le feu. Il était spécialiste des immolations par le feu dans le film des années 70-80. Donc ces personnages-là m'ont marqué pour me servir de base pour certains personnages du livre, évidemment. Des rencontres comme ça, on en fait beaucoup en Californie quand on traîne dans ce milieu-là. Ça me semblait être un sujet merveilleux. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à me détacher de toute ambition académique, à me détacher de toute ambition scientifique pour essayer d'aller creuser à partir d'une matière que je connais bien, d'aller me confronter à l'ambition littéraire.
Alors, pourquoi la forme du roman noir, en fait, du roman de genre, pour parler de ce sujet plutôt qu'un autre ? Parce que vous auriez pu avoir la forme d'un western tout à fait classique. Et est-ce que ça vient des influences cinématographiques ou d'influences littéraires ?
Les influences, elles sont plutôt cinématographiques dans le livre. Le roman noir est une source d'influence, incontestablement. Le cinéma, les westerns, incontestablement. Les films de Sergio Leone, les films de Quentin Tarantino. Bien sûr, Butch Cassidy et Sundance Kid, parce que Robert Redford va jouer un rôle important dans le livre. Bon, il n'est pas au courant, hein, mais il joue un rôle important. Jeremiah Johnson aussi, c'est un western qui m'a beaucoup marqué. Les images dans la neige de ces chevaux qui suivent les pas des hommes. Des images fortes qui ont imprégné mon imaginaire au moment de l'écriture. Des références cinématographiques, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas tout à fait un western, je pense. Ce n'est pas tout à fait un roman noir. Ce n'est pas tout à fait un road trip. C'est un peu les trois à la fois. Avec, sur fond, on pourrait dire, de références tauromachiques, sur fond de références faites au rodéo et sur fond de références cinématographiques. C'est sans doute les trois dimensions du spectacle qui servent de toile de fond au livre, avec une idée directrice, en tout cas une tension au sujet des personnages, c'est qu'ils... ils entremêlent ou ils confondent très fréquemment la réalité et la fiction. Ça m'a intéressé d'introduire dans le livre des références cinématographiques avec des personnages qui, pour nous, quand on pense à Jeremiah Johnson ou quand on pense à Butch Cassidy ou à Sundance Kid, mais on pense à qui en réalité ? Est-ce qu'on pense à Paul Newman ? Est-ce qu'on pense à Robert Redford ? Est-ce qu'on pense au vrai Butch Cassidy ? Est-ce qu'on pense au vrai Jeremiah Johnson, le mangeur de foie ? Pour le lecteur, cette tension entre des personnages historiques qui ont existé, des personnages historiques qui ont été portés à l'écran avec toutes les déformations possibles, qui sont incarnés par des visages, par des gueules cinématographiques qui les dépassent, ça me semble être une référence très importante, enfin un mécanisme très important dans la construction de notre propre identité. Dans la construction de notre propre identité, il est pas du tout sûr qu'on fasse le tri entre les personnages de fiction et les personnages réels. Et au sein du livre, cette dimension, pour moi, elle était importante. De savoir que John Harper, il s'est fabriqué un père, il a visiblement pas eu de père, il s'est fabriqué un père qui serait potentiellement Robert Redford. Et ce père-là va l'accompagner tout au long de l'histoire. Ce père fantasmatique va l'accompagner tout au long de cette histoire. Et je pense que ça raconte quelque chose sur les mécanismes de l'identité de toutes ces personnes qui sont tiraillées entre plusieurs attaches, plusieurs personnalités, voire une frontière qui les sépare entre un pays d'origine et un pays d'accueil. Cette dimension-là, elle m'a intéressé dans la construction des personnages. Donc tous les personnages, ils ont un rapport à l'identité qui est complexe. Le frère, il y a John Harper qui est accompagné par un personnage qui s'appelle Miguel, qui est le frère du maire du village, très rapidement, on se rend compte dans le livre que ce personnage-là, il joue toujours des seconds rôles. Il joue le second rôle de son frère, il joue le second rôle de John Harper. Tantôt il est docteur, tantôt il est avocat, tantôt il est chauffeur, tantôt il est. Il passe sa vie à jouer des seconds rôles, et puis au bout d'un moment, dans ce retour vers le nord, enfin, qui pour lui n'est pas un retour, qui est une échappée de son village d'origine, il prend conscience d'avoir été un petit peu le personnage principal, secondaire de sa propre existence. Et ce personnage-là, au fur et à mesure, il arrive à se détacher de tous ses seconds rôles pour trouver qui il est. Donc c'est un personnage secondaire, mais il y a beaucoup de personnages qui fonctionnent sur cette interrogation, en tout cas, sur interrogation identitaire, comment on construit notre identité, comment on mêle la fiction et la réalité dans la construction de notre identité, et comment, bien sûr, le roman n'a aucune ambition didactique sur cette question, mais c'est peut-être ce qui relie tous les personnages.
Oui, cette notion de divertissement, en fait, elle traverse à la fois l'écriture et les sujets abordés, puisque le spectacle de la tauromachie et du rodéo, justement, sont des activités spectaculaires. Est-ce qu'on peut justement évoquer ce rapport entre la figure du cow-boy et la figure du torero? Et comment finalement, alors ça c'est votre formule, mais l'Amérique se trouve réversible justement dans ces jeux taurins?
Alors c'est une question très difficile, hein, là vous allez me piéger. Sur la réversibilité, alors c'est effectivement un mot qu'on avait utilisé avec Frédéric Sommat pour parler de la construction de l'Amérique. Dans quelle mesure cette Amérique-là, historiquement, elle se construit dans une réversibilité parce que les cow-boys qui arrivent, enfin pas les cow-boys, les pionniers justement américains, de toute façon toute cette avancée du front d'américanisation de l'Est vers l'Ouest, les personnes qui arrivent, ce sont des Européens pour la plupart d'entre eux, c'est pas du tout des cow-boys, ce sont des fermiers ou des artisans. Et comment l'Amérique a réussi à construire le mythe du cow-boy américain sur une base qui est essentiellement exogène, puisque les cow-boys réels, ce sont des métis, ce sont des Mexicains, ce sont éventuellement descendants des Espagnols, c'est ceux qui introduisent l'élevage extensif en Amérique, ce sont les ranchers, ce ne sont pas des farmers. Et comment l'Amérique a réussi à construire un personnage emblématique, tellement emblématique de son identité, à partir d'éléments exogènes et à partir d'une conquête finalement qui s'est appelée conquête de l'Ouest pour eux, mais qui a été, pour ses confins septentrionaux du Mexique, une conquête du Sud. Il y a quand même une guerre entre les États-Unis et le Mexique de 1846 à 1848, qui fait passer un tiers du territoire mexicain, on pourrait dire un tiers des confins de l'empire colonial espagnol, du côté des États-Unis. La Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas était des terres hispano-mexicaines, on va dire, avant que d'être des territoires états-uniens. Donc cette construction du cow-boy blanc, du cow-boy anglo, en partie construite par Hollywood, Elle a joué de cette réversibilité de l'identité, puisqu'elle a réussi un formidable exercice de blanchiment de l'histoire. Elle a remplacé la conquête du Sud par le mythe de la conquête de l'Ouest, et elle a réussi à créer l'image d'un cow-boy blanc, alors que le cow-boy originel, le travailleur du bétail, c'est avant tout un métis. Et ça, je trouve que ça dit quelque chose sur les États-Unis d'Amérique, sur la construction identitaire des États-Unis d'Amérique, et sur cette extraordinaire faculté à amalgamer des contraires, et cette extraordinaire faculté à construire un cœur à partir des marges. Cette question anthropologique, elle est sous-jacente dans le livre, évidemment, mais c'est une question anthropologique et historique qui a accompagné la réflexion autour de la corrida et autour du rodéo. Ce sont deux jeux qui sont des cousins éloignés. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est plus qu'une métaphore. Il faut quand même se rappeler qu'en Amérique, avant l'arrivée des colons espagnols et de la colonisation espagnole, il n'y a pas de chevaux et il n'y a pas de bovins. Alors ça paraît surprenant parce qu'on a du mal à imaginer des Indiens qui ne seraient pas à cheval pour chasser le bison, par exemple. Les Indiens ne connaissent pas le cheval avant l'arrivée des Espagnols. Donc de façon très radicale, le rodéo américain, de toute façon, s'appuie sur un héritage hispanique. Ça, c'est une première chose, un petit peu un argument élémentaire du raisonnement autour de ces espaces-là. Ensuite, dans les représentations collectives, entre la corrida et le rodéo, si vous dites à un amateur de rodéo que sa pratique ou son jeu, ce spectacle-là, a quelque chose à voir avec la corrida, ben pour des raisons éthiques, il va vous dire tout le contraire. Il va dire comment ça, ce spectacle sanguinaire, le rodéo n'a absolument rien à voir avec la corrida. À l'inverse, si vous dites à un amateur de corrida que le spectacle, son spectacle, a quelque chose à voir avec le rodéo, il va vous dire ce spectacle de bouseux texan mal dégrossi n'a rien à voir avec l'art que constitue la tauromachie. Donc d'un côté pour des raisons éthiques et de l'autre côté pour des raisons esthétiques, ces deux pratiques se renvoient dos à dos alors qu'elles sont historiquement issues d'un cousinage, issues d'un métissage, d'une évolution historique complexe. Elles sont issues d'un relais hégémonique entre l'empire hispanique vieillissant de la fin du XIXe siècle et puis l'hégémonie néo-impérialiste américaine qui s'impose dans tout le continent. Parce que des rodéos, il en existe aux États-Unis, bien sûr. Quand on dit le mot rodéo, on pense aux États-Unis. Mais il en existe au Canada, il en existe bien sûr au Mexique, il en existe au Chili, il en existe en Colombie, il en existe au Brésil. Et dans quantité de territoires où, en plus, cet élevage, c'est... Cette mise en scène de la pratique de l'élevage a toujours eu quelque chose à voir avec la construction des États-nations. Au Mexique, la charreada, le rodéo mexicain, les cavaliers charros font partie de l'armée mexicaine. Alors, c'est un titre officiel, mais ils font partie de l'armée mexicaine. C'est la même chose au Chili. Le cavalier Huasos au Chili, il a participé à la geste indépendantiste du Chili, qui en a fait un État-nation indépendant de la tutelle espagnole. Donc cette figure-là du cow-boy, quel que soit le pays d'Amérique, il a joué un rôle dans la construction nationale des pays et il a joué un rôle dans l'affranchissement vis-à-vis de la tutelle espagnole. Donc corrida et rodéo entretiennent à la fois des relations de cousinage et puis de construction un petit peu, on pourrait dire, en miroir, de différenciation en miroir où l'un a permis une distinction vis-à-vis de l'autre. Alors, dans Matador Yankee, évidemment que le héros, c'est ça qui m'a intéressé, ce personnage-là, lui, il est tiraillé parce qu'il aime les cow-boys, il aime les Indiens et il aime la tauromachie. Il rêve de devenir un grand torero. Bon, il est blond, il est californien, il n'a pas de chance. Il est né du mauvais côté, il est né à Los Angeles. Donc il fait une partie de sa carrière, on l'apprend au début du livre, il fait une partie de sa carrière au Mexique. Mais au Mexique, il se trouve dans la situation où le stigmate est inversé. C'est lui le blond, c'est lui le yankee, c'est lui le gringo. Et il a assez peu de chances de réussir. Donc ça m'amusait aussi de renverser le rapport de domination, de façon peut-être un peu facile, entre le Mexique et les États-Unis, en plongeant ce torero californien attaché à un univers un petit peu fantasmatique autour des figures hollywoodiennes du cinéma, de le plonger dans un village perdu, Cerro Cachi, qui est un village que j'ai inventé, hein, le village n'existe pas, mais... Qui raconte ce choc et ce contraste entre le rodéo et la corrida à travers un personnage qui synthétise ces contradictions.
Est-ce que ce personnage-là se base sur des figures en fait de torero américain, enfin nord-américain, qui auraient vraiment existé, ou est-ce que c'est de la pure invention littéraire ?
Alors c'est Harper, John Harper n'a pas existé, mais il y a eu le premier torero américain qui s'appelle Harper Billy, Harper Baylor Lee. Lui a existé, c'est d'ailleurs pour ça que John Harper emprunte ce nom, parce qu'il est considéré comme le premier torero yankee. Il est né dans une famille, son père travaillait pour les Texas Rangers, il a vécu à Guadalajara au Mexique, il a passé l'alternative... en 1910, je crois, à Guanajuato, bon, je ne sais plus, peu importe. Donc, il a fait carrière, il a eu une petite carrière, et il a lancé plusieurs toreros yankees, toreros américains, enfin, américains, c'est réducteur, mais toreros yankees, on ne sait pas trop comment les appeler. Donc, il y en a eu une dizaine dans l'histoire. Ils n'ont pas tous passé l'alternative. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer un en Californie qui s'appelle Denis Borba, qui est issu d'une famille portugaise plutôt spécialisée dans l'élevage laitier. Mais ce Denis Borba, donc, qui est matador en titre, hein, donc il a la possibilité de participer à des corridas avec des taureaux de 4 ans révolus. Lui, il est tout à fait... dans l'optique d'un Harper, c'est-à-dire qu'il élève du bétail, il est issu d'une famille d'élevage laitier portugais, il élève du bétail pour la corrida et il élève du bétail pour les rodéos mexicains. Il donne des cours, il est bien malin, de tauromachie pour des bourgeois et des bourgeoises de New York et de Los Angeles qui s'entichent de tauromachie, tout en pratiquant des tientas, alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme, des tests de bravoure qui consistent à torer des vachettes ou des jeunes vaches dans les élevages. Lorsqu'on assiste à ce spectacle-là, parce que c'est un spectacle, on voit Denis Borba au milieu de l'arène donnant des conseils à j'ai le souvenir d'une dame de Los Angeles qui s'était habillée en torero avec un déguisement de torero, parce que l'habit coûte extrêmement cher, et qui, à chaque passe de la vachette, criait « Olé !» et voulait que son amant la prenne en photo au moment de la passe. Donc là, on se dit, mais oui, là, se mélange le rodéo, la corrida, le cinéma, le fantasme qui a été quand même celui d'Hollywood sur la corrida, parce que tout ça a passé de mode, mais jusque dans les années 50, Hollywood était très attaché, enfin beaucoup en tout cas, de à la fois de producteurs, d'acteurs, j'évoque certains noms dans le livre, hein, s'intéressaient à la corrida et affichaient très, très ouvertement, hein, leur amour pour la tauromachie et se précipitaient à Tijuana. Tijuana, c'est tout près de Los Angeles. En 2 heures de voiture, on y est. Donc, c'était vraiment la banlieue. Tijuana constituait la banlieue à la fois taurine, à la fois festive, pour les casinos, pour les bordels de Los Angeles. Donc, cette époque-là, elle a existé. Elle est aujourd'hui complètement révolue. Mais cette époque-là, elle a existé. Et on en voit, quand on est sur le terrain, on en voit des traces qui pour moi, ont bien sûr inspiré toutes les contradictions du héros, de John Harper, et aussi tout son malaise vis-à-vis de ce monde qui change, où ça a plus grand sens au début du XXIe siècle d'être un torero blond et californien. Il a bien conscience que là, il s'est complètement fourvoyé. Donc sa vie lui échappe et il a des doutes sur sa passion. Il se dit, mais comment j'ai pu croire à ce rêve-là en étant le fils de Robert Redford et devenir un grand torero et un jour peut-être aller torer en Espagne à Séville, puisque c'est son rêve récurrent qu'il formule. Donc ce personnage Moi, j'y suis attaché, évidemment, parce que à la fois, il s'est fourvoyé, il doute vis-à-vis de ce qu'il sait faire, puisqu'il sait torer. Il doute de l'utilité de savoir torer. Il doute de la moralité de savoir torer. Il est pris, finalement, dans des questionnements qui sont souvent passés sous silence, à la fois chez les personnes qui s'intéressent à la tauromachie, et surtout qui sont passés sous silence chez les toreros eux-mêmes, qui, bien évidemment, réfléchissent à la mort, à leur propre mort, à la mort de l'animal, à la souffrance des animaux, et qui, on va dire, souvent est écrasés par, d'un côté comme de l'autre, par les anti-taurins comme par les pro-taurins, qui est écrasés dans des caricatures un peu brutales.
Alors, il y a un passage qui m'a vraiment surpris dans cet ouvrage, c'est à peine évoqué, mais c'est un sujet assez intéressant, c'est la question d'une certaine forme de dopage. Bon, le personnage principal est alcoolique et a besoin d'être vraiment dans un état d'ébriété avancé pour pouvoir affronter sa propre peur par rapport à l'animal. Et vous évoquez aussi des élevages de taureaux qui sont quasiment des machines de guerre, en fait, qui sont modifiées et entraînées justement à offrir un spectacle toujours plus impressionnant.
Oui, alors cette question, quand on travaille avec les éleveurs, que ce soit les éleveurs de rodéo plus que les éleveurs de corrida, mais ça concerne surtout les élevages pour le rodéo et pour la monte des taureaux. Généralement, quand on pense au rodéo, on pense à la monte des chevaux sauvages. Sur toutes les affiches anciennes, on pense plutôt au travail du cow-boy qui doit débourrer un cheval, maîtriser sa monture pour ensuite pouvoir garder le bétail. C'est un petit peu la transposition ludique et spectaculaire d'une pratique originelle qui est une pratique d'élevage, une compétence du cow-boy. À partir des années 20 et des années 30 aux États-Unis, ce qui était très marginal, à savoir la monte des taureaux, commence à prendre de l'importance au prix d'un croisement entre du bétail local et entre des zébus directement venus d'Asie qui permettent de croiser le bétail local avec des zébus. C'est ceux qui ont une bosse très prononcée sur le dos, à la base du cou. C'est des taureaux très musclés, très forts, très puissants, hein, qui peuvent en détente sèche sauter à 1,50 m de haut, en détente sèche. Hein. Et petit à petit, à partir des années 20, des années 30, cette pratique-là, qui est très spectaculaire, qui est très dangereuse, prend le dessus, progressivement, certes, sur la monte des chevaux. Et cette pratique-là, elle n'a aucune utilité liée à l'élevage extensif de bétail. On ne monte absolument pas les taureaux dans le cadre de l'élevage extensif de bétail. Ça a une justification de monter le cheval dans le cadre d'un élevage, ça n'a aucune justification de monter un taureau. Donc il y a une mise en spectacle de cette épreuve-là, entre le taureau et l'homme, qui prend racine dans les années 20, les années 30, et qui va gagner en importance. Les récompenses vont être de plus en plus fortes, l'argent va être de plus en plus... cette épreuve-là, pardon, va être de plus en plus rémunératrice, et ça va devenir progressivement le spectacle dominant du rodéo. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des rodéos où il n'y a plus que, dans certains rodéos, de la monte de taureaux. Donc quand on observe ce qu'est la tauromachie et cette évolution du rodéo, évidemment, on se dit qu'il y a une forme de mise en tauromachie du rodéo, d'une tauromachisation du rodéo. Le mot n'est pas très joli, mais et cette tauromachisation du rodéo, elle a entraîné des bouleversements importants. Parce que le monteur qui montait le cheval jusqu'à présent, désormais monte des taureaux qui font plus d'une tonne. Et lorsqu'ils sont désarçonnés, ils sont chargés par le taureau, ce que ne fait pas forcément le cheval. Ils sont chargés par le taureau, donc il faut que quelqu'un puisse leur venir en aide. Et ce quelqu'un qui leur vient en aide, c'est la figure du clown, qui jouait un rôle, on pourrait dire, un rôle pour divertir la foule, plutôt entre les épreuves, et qui progressivement se voit contraint de protéger le cow-boy désarçonné. Ce clown, à partir de là, va être séparé en deux. Il y a le clown burlesque et le clown sérieux. Le clown burlesque, c'est celui qui va continuer à faire des interludes comiques pour assurer le spectacle. Et le clown sérieux, ça va être celui qui va protéger le cow-boy. Ça va être le cow-boy protecteur. Et ce cow-boy protecteur, on l'appelle le bullfighter. On l'appelle le torero. Et dans les années 30, ces clowns-là, comment ils apprennent à manier à savoir se comporter face aux taureaux, eh bien, ils apprennent en franchissant la frontière, en partant au Mexique, auprès des toreros. Auprès des toreros spécialisés dans la corrida. Et il y a des photos de l'époque, au moins jusque dans les années 50, où ces cow-boys, ces clowns qui protègent l'homme des arçonnés ont même une cape. Donc vous avez des cow-boys qui ont des capes de toreros et qui viennent protéger l'homme des arçonnés. Donc cette transformation du spectacle, elle montre aussi que ce phénomène-là de séparation, de distinction, peut se transformer, peut évoluer. On assiste aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent aussi au changement du statut du cheval, à une remise en tauromachie du rodéo. Le rodéo est venu de la tauromachie, en quelque sorte, il s'en est séparé, et par certaines ramifications qui sont vraiment propres à la culture sportive américaine, retrouve ses origines tauromachiques. Et là, c'est là que les éleveurs sont malins, puisqu'ils créent à la fois du bétail pour le rodéo. Le premier bétail, d'ailleurs, pour le rodéo, j'ai pu le vérifier sur le terrain, s'est effectué aussi avec des croisements de bétail pour la tauromachie, de bétail de corrida, de bétail brave. Donc on a des ramifications qui sont extrêmement complexes, qui montrent que ces mondes-là communiquent, ont toujours communiqué, sont dans une logique de distinction, de différenciation qui est toujours en cours et qui se perfectionne jusqu'à l'insémination artificielle, évidemment, pour produire ces animaux de spectacle qui, pour certains d'entre eux, sont absolument monstrueux et terrifiants.
On va évoquer maintenant la partie purement géographique de ce roman. Parce que comme vous me l'avez dit dès le départ, c'est pas que un road trip, pas que du roman noir, et le paysage et la différence entre la montagne reculée de ce petit village et la grande ville qui est Tijuana propose une véritable opposition et en même temps une lecture de ce qu'est le Mexique contemporain. Le placer justement dans le Mexique, ce roman, c'est de ce côté-là de la frontière, surtout, enfin de cette partie-là de l'Amérique, est-ce que ça permet justement d'expliquer ce qu'est l'Amérique aujourd'hui et l'Amérique au sens large, et pas des deux parties de la frontière ?
Alors, j'ai un peu picoré pour le Mexique. C'est-à-dire que j'y suis allé à plusieurs reprises pour ce travail de terrain. J'y étais allé pour un voyage avec un ami, Mathieu Liorens, pour le citer. On était parti un mois et demi au Mexique. On avait rencontré là aussi des personnages hauts en couleur. Un personnage d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré, que connaît bien Jean-François Jounot, que je vois ici au premier rang, qui s'appelle Javier, qui était vétérinaire taurin, qui a été champion de karaté et qui m'a un peu inspiré pour le maire du village. Parce que ce maire du village, je trouvais intéressant qu'il soit karatéka. Là aussi, pour casser des clichés liés à l'image du Mexique, à un Mexicain karatéka, oui, il y a évidemment qu'au Mexique, il y a des gens qui font du karaté, évidemment. Donc je referme la parenthèse, mais cette opposition entre les États-Unis et le Mexique, pour la partie mexicaine, j'ai un peu picoré à partir de voyages que j'y ai faits, à partir bien sûr d'enquêtes de terrain qui m'ont permis d'aller à Tijuana régulièrement. Et ça m'a servi de matériau de base pour parler du Mexique. Mais dans le fond, d'un point de vue littéraire, ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'on a besoin de trois fois rien. Qu'est-ce qui fait tenir la cohérence d'un lieu dont on parle ? C'est pas forcément le fait d'y être allé. Il y a un entremêlement, un entrelacement très complexe entre la réalité et ce qu'on donne à voir. Bien sûr, ces choses-là sont bien connues. Entre la réalité et la fiction, il y a cette tension permanente qui se joue. Ce que je montre du Mexique contemporain, là encore, ça n'a pas pour fonction de parler du Mexique. Je crois que ça a pour fonction de parler des personnages. Et c'est là peut-être que l'écriture romanesque, je la vis comme quelque chose de très 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 éloigné de l'écriture scientifique. Mon travail, on pourrait dire en tant que géographe, c'est de parler des espaces. L'écriture romanesque me permet de parler des espaces, mais à travers la cohérence des personnages. J'aime que au sein des personnages se trouvent concentrés des contradictions spatiales, des contradictions géographiques. Se trouvent concentrées des géographies imaginaires qui montrent que, en tout cas pour les personnages du livre, Ils ne vivent pas du tout ces espaces dans une opposition, dans une continuité entre la plaine et la montagne, entre les États-Unis et le Mexique. Ils vivent leur géographie de façon très réticulaire, des petits points qu'ils connaissent, mis en réseau à travers leur village d'origine, la frontière qui reste un grand véhicule et un grand médiateur de un grand miroir identitaire pour des gens qui s'en démarquent, qui peuvent traverser dans un sens et pas dans l'autre. Donc s'il y a de la géographie dans ce livre, je crois que c'est pas sur des différenciations de l'espace, c'est sur la façon dont au sein des individus nous vivons l'espace dans un rapport de mise en réseau des espaces imaginaires et des espaces réels qui constituent ce que nous sommes. Dans ce sens-là, oui, il y a une réflexion géographique.
Et est-ce que votre prochain roman parlera encore des États-Unis ?
Alors, je profite de la présence de mon éditrice ici, Marik. Le prochain roman, peut-être que je peux raconter une anecdote pour parler du prochain roman. Elle sera courte. Quand j'ai envoyé ce livre, le manuscrit, à plusieurs éditeurs, J'ai été rappelé 3 semaines après, très rapidement après, par, on va dire, une grosse maison d'édition. On peut parler comme ça, une grosse maison d'édition. Bon, je ne vais pas la citer. Appelons-la Michel Blanc. Enfin, c'est bon. Appelons-la Michel Blanc. Certains reconnaîtront. Et il se trouve que la personne que j'ai eue au téléphone, avec qui j'ai gardé de très bons rapports, avait apprécié le manuscrit. M'a un petit peu fait tourner en bourrique pendant 3 semaines, me disant « oui, ça va marcher, ça ne va pas marcher. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, vous allez voir, vous allez peut-être être publié. Ah, merci, etc. » Je ne voyais pas très bien où cette histoire allait. Et puis, au bout de plusieurs semaines, elle me rappelle, désolée, en me disant que le manuscrit, il n'allait pas être publié. Alors, je la remercie beaucoup de ce parcours, parce qu'en réalité, ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir à ces questions de terrain. Je vais, pour une fois, j'ai une idée bien en tête de ce que je veux raconter. Et elle m'a dit, si vous aviez été américain, on vous aurait publié. Alors là, j'ai été absolument à la fois stupéfait, estomaqué, et en même temps un petit peu fier, en me disant, mais alors estomaqué, c'était de me dire, mais vraiment, vous accordez si peu d'importance à la fiction, au point de dire que si j'avais été américain et finalement si ce livre parlait un tant soit peu de moi, j'aurais pu être publié. Alors, bien sûr, elle a bien senti le piège, ma réaction. Elle m'a dit, oui, en ce moment, c'est l'autofiction. Littérature feel good ou autofiction, c'est ce qui marche. Mais ne vous prostituez pas. Donc, les grands mots, ne vous prostituez pas. J'ai dit, bon, je ne veux pas raconter ma vie. Quoi qu'il arrive, je ne me prostituerai pas. Mais ça m'a fait réfléchir sur ce rapport au terrain, ce rapport à la réalité, ce rapport à la référentialité d'une œuvre lorsqu'on écrit quelque chose. Et du coup, je peut-être un peu par contradiction, par provocation, le prochain roman, puisque je l'ai presque terminé, on va dire, se passe dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Il se passe aux confins de la Sibérie, aux confins de la Sibérie, dans le nord de la Sibérie, dans un pays d'élevage de rennes. Bon, il y a toujours de l'élevage, donc chez des éleveurs de rennes où se présente un problème de radioactivité qui est un problème bien réel. Il y a des rennes radioactifs, sachez-le si vous allez là-bas. Donc il y a des rennes radioactifs et une scientifique est appelée pour régler le problème et elle se rend compte qu'on essaie de se débarrasser d'elle. Voilà, je m'arrête là pour la suite. Mais donc, il y aura un prochain roman qui prend le contre-pied exact de celui-là, en tout cas dans son rapport au terrain et dans son rapport à la référentialité des espaces dont on parle.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Maudet.
Merci à vous.